m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Ça y est, le déconfinement a commencé en France. En tapant le texte que je suis en train de vous lire sur mon ordinateur, j'ai d'ailleurs constaté que le mot déconfinement n'était pas encore reconnu par mon correcteur d'orthographe. Gageons que cela changera très vite. Et si c'était cela, après tout, le monde d'après. En tout cas, en attendant que l'art de manger à la française reprenne pleinement ses droits, l'ouverture des cafés, bars et restaurants n'étant pas pour tout de suite, en attendant que les salles de spectacle et de cinéma aient à nouveau le droit d'essayer d'attirer des spectateurs qui risquent d'être frileux, dans un premier temps en tout cas, les coiffeurs, c'était très attendu pour beaucoup, plus pour certains d'ailleurs que pour d'autres, ont pu rouvrir, de même que certaines bibliothèques, librairies et autres disquaires, mais aussi quelques petits musées. On essaiera de vous en parler dans cette émission dans les prochaines semaines, car petit à petit, les acteurs de la culture vont reprendre leurs activités qu'à un quart. Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Jean-François.
Vous vous êtes intéressé à la production de podcasts, livres audio et autres fictions sonores, bref, tout ce qu'on a pu se mettre dans les oreilles en dehors de la musique pendant nos journées confinées. Leurs productions ont été bouleversées pendant cette crise sanitaire, évidemment, et le retour à la normale n'est pas prévu avant un petit moment.
Oui, dans le secteur du podcast, si certains ont fait le choix de la rediffusion, d'autres continuent à enregistrer de nouveaux épisodes, mais en adaptant leur contenu à la situation. C'est le cas de Thomas Rozek à la tête du podcast d'actu Programme B de Binge Audio.
C'était aussi l'occasion de maintenir le lien avec la communauté des auditeurs et des auditrices de Binge Audio. On a cherché des thématiques qui allaient autour du confinement, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de comment est-ce qu'on s'informe dans cette période, comment est-ce qu'on s'aime, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on s'occupe de ses enfants. Voilà, on a listé tout un tas de questionnement comme ça assez précis et on a retourné la question à nos auditeurs, à nos auditrices qui ont très gentiment partagé leur expérience, nous ont envoyé des notes vocales, nous ont envoyé des textes, nous ont envoyé plein de choses.
Et si vous tendez l'oreille, vous discernerez peut-être des voix d'enfants car Thomas Rozek enregistre son podcast depuis chez lui.
On a préféré faire le plus possible d'enregistrements via des logiciels de conférence numérique. Ça nous permet d'avoir un son d'un peu meilleure qualité qui n'est évidemment pas la qualité studio mais quand même, l'autre partie étant ma voix, on avait anticipé le truc, je suis parti avec un enregistreur, un micro, celui avec lequel je suis en train de vous parler, donc on s'en sort.
Et pour ceux qui n'ont pas pu installer de studio chez eux mais qui continuent à s'enregistrer, il existe quelques techniques de débrouille qui peuvent sauver la mise. Démonstration avec Victoire Tuyon qui présente le podcast Les couilles sur la table, toujours chez Binge Audio.
Ah oui, et peut-être aurez-vous remarqué, chers auditeuristes, que j'ai une voix un peu différente au début et à la fin de cet épisode. Eh bien c'est parce que l'intro et la conclusion ont été enregistrées avec les moyens du bord, chez moi, sous la couette parce que le son est meilleur, en pleine période de confinement exigé face à la pandémie de coronavirus.
En ce qui concerne les audiences, elles sont difficiles à mesurer pour le moment. Le podcast, mais aussi le livre audio et les créations sonores en tout genre, sont habituellement écoutés dans les transports, qui sont de fait moins empruntés pendant ce confinement, mais le temps passé à la maison, lui, a augmenté. Et ça se ressent dans le secteur du livre audio, qui a vu croître le nombre de ses audiolecteurs, selon Valérie Lévy-Soussan, directrice des éditions Audiolib, et c'est en grande partie pour distraire les enfants.
On a vu un développement des ventes de livres audio pour la jeunesse. À travers notre site, nous avons eu un doublement de la fréquentation et nos ventes, elles, ont augmenté en moyenne en fonction des différentes plateformes, entre 20 à plus 40-45%.
Un nouveau rythme de vie qui entraîne de nouvelles habitudes et de nouvelles formes de divertissement.
Les gens sont à la recherche de nouvelles façons de se distraire qui peuvent les éloigner éventuellement des écrans auxquels ils sont confrontés toute la journée. Et le livre audio apporte un supplément d'émotion, stimule l'imaginaire, etc.
Chez Novelcast, qui produit des fictions sonores, on a d'ailleurs la même vision des choses.
Dans certains scénarios, l'image n'apporte pas énormément de choses. Surtout les scénarios où tout est sur le dialogue et faire avancer l'histoire, faire avancer l'intrigue par force de dialogue. On est vraiment dans l'oreille de la personne. Les gens écoutent ça au casque en général. En choisissant bien les voix et en choisissant bien les personnages et les interprétations, on en vient à leur faire vraiment une espèce d'image de théâtre mental intime que les gens s'approprient très très vite.
Mais comment continuer à produire dans ce contexte de crise sanitaire ? Pour Jean-Baptiste Jeannot, le producteur qu'on vient d'entendre, certains enregistrements ne pourront se faire dans l'immédiat, mais l'activité n'est pas paralysée pour autant.
Enregistrer plusieurs comédiens en même temps, là pendant un moment ça va pas être possible. On va pas prendre le risque nous, humainement, d'aller mettre des gens en danger. Mais il y a des méthodes de travail en pistes séparées, ça demande un travail énorme de la part du réalisateur parce qu'il faut qu'il connaisse exactement ce qu'il veut de chaque personnage sur chaque scène et qui s'en rappelle exactement. Donc ça demande un énorme boulot de concentration, mais c'est faisable.
En attendant, les comédiens resteront seuls dans leur cabine désinfectée, les ingénieurs du son seuls derrière leur console et les activités de montage, mixage d'image et d'édition continueront de se faire depuis le canapé.
Amélie Beaucourt dans VMDN sur RFI. Si vous êtes comme moi un petit peu vieux jeu et que vous aimez bien les livres audio, mais que vous aimez encore plus caresser la couverture d'un bon roman, en corner les pages, en souligner quelques lignes, ou comme vous, Amélie, en sentir l'odeur de l'encre ou du papier, eh bien vous pouvez le faire à nouveau en librairie depuis aujourd'hui, derrière votre masque, évidemment. Et un petit conseil, précipitez-vous sur le livre de notre invité du jour que je vous présente tout de suite. C'est la troisième fois que nous la recevons dans cette émission. Elle était venue nous parler de son roman anglais qui nous plongeait dans la Grande Guerre et un peu plus tard de son élurophilie avec son éloge du chat. Elle a aussi partagé avec ses lecteurs le quotidien d'une autrice en résidence avec l'animal et son biographe et un récit sur le tatouage intitulé « Sang d'encre ». Et la voici qui explore un nouveau territoire littéraire, le temps d'un récit japonais qui, en alliant la violence brute du sabre des samouraïs et la poésie printanière de la fleur de cerisier, nous fait entrer dans la tête d'un kamikaze de la Seconde Guerre mondiale, « Pacifique » de Stéphanie Hochet, est paru aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Stéphanie Hochet.
François.
Alors, des idées, vous n'en manquez pas, c'est clair. Se glisser dans la tête d'un kamikaze, il fallait quand même l'avoir, cette idée. Comment est-ce qu'elle vous est venue ?
Elle est venue il y a très longtemps, puisque j'ai commencé ce texte exceptionnellement il y a 4 ans. Je dis exceptionnellement parce qu'en général, quand je commence un texte, je le continue. Et il se trouve qu'il est arrivé quelque chose à ce texte-là, c'est que je l'ai commencé et je l'ai interrompu. Je l'ai interrompu des années. Et
on peut savoir pourquoi ?
En fait, il y a une rupture. C'est-à-dire que j'ai commencé ce texte et j'ai douté. Il se trouve aussi que j'ai une commande pour un éloge du chat, donc un essai littéraire que je devais rendre assez rapidement. Et puis j'ai enchaîné sur un autre roman et j'avais un peu douté de ce livre. Au final, je l'avais pour ainsi dire oublié, de sorte que quand je me suis mise à le relire pour me faire une idée, je l'avais pour ainsi dire oublié quoi. Donc je me suis mise à le relire en me demandant est-ce que ce texte vaut vraiment la peine que je le continue ou pas. Et en le relisant, moi qui l'avais quasiment oublié, je me suis dit non, il faut vraiment le continuer, là ça c'est un texte important. Et pourquoi traiter de cette thématique, c'est une histoire peut-être encore plus ancienne, puisque je regarde volontiers les documentaires historiques. Mmh. Alors, je connaissais les documentaires qui prenaient le parti, on va dire, ou le point de vue plutôt des Occidentaux. Donc, je me souviens du comportement, enfin, de l'ébahissement des Américains devant la surprise de ces pilotes japonais qui se jetaient sur leurs cuirassiers, et je me souviens de leur terreur et de leurs remarques. Ils le prenaient pour des monstres, hein. Ces gens ne sont à peine des humains pour faire ça. Et d'autres documentaires me montraient, et ça plus tardivement, un point de vue radicalement différent, c'est-à-dire on s'intéressait enfin à ces jeunes hommes qui sont généralement très jeunes et qui n'étaient pas forcément des grands volontaires pour le suicide. Il y en avait certains, oui, mais beaucoup y allaient parce que c'était des ordres, en fait. Et ils avaient parfaitement conscience de que la guerre était terminée, qu'ils sacrifiaient leur vie pour rien. Beaucoup écrivaient des lettres poignantes à leur famille, et j'ai trouvé ce destin absolument romanesque, terrible, et étrangement jamais traité en littérature, du moins du point de vue du kamikaze japonais. On a toujours pris le point de vue de l'occidental, par exemple avec le livre de Pascal Rose, hein, qui parle du chasseur zéro et du trauma créé par la famille des victimes de ces kamikazes. Mais on s'est jamais vraiment plongé dans la psyché en fait de ces jeunes hommes qui étaient un peu des malgré nous pour la plupart.
Et c'est précisément ce que vous faites dès le début de ce roman. Dès les toutes premières lignes du livre, le lecteur se retrouve comme ça au cœur des pensées de votre personnage, ce jeune homme qui s'appelle Isao Kaneda. Il a 21 ans, nous sommes page 11 de votre livre.
Je noue le hachimaki aux couleurs de notre Japon éternel autour de mon casque. J'effectue ce geste avec lenteur et solennité, sans pensée, sans émotion. Le froid dans mes veines, le temps s'est arrêté, je suis une fleur de cerisier poussée par le vent. Ai-je le choix ? Ai-je eu le choix il y a un mois, quand nous avons été réunis par les officiers au petit matin sur la base aéronautique ? Le soleil se levait, rond et rouge, l'image du drapeau impérial. Ils ont annoncé que notre escadrille se portait volontaire pour devenir des kikutsui, des chrysanthèmes flottants. C'est le nom poétique donné au sacrifice d'un avion et de son pilote sur un navire ennemi. Pour être plus exact, ils nous ont demandé, sans nous demander, « Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand empire nippon n'y seront pas forcés, qu'ils lèvent la main. Ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur, qu'ils lèvent la main maintenant. » Nous étions prêts. Personne n'aurait osé refuser la mission. Aucun soldat japonais n'arrivera jamais à cette ignominie. Être volontaire est le devoir du combattant. Il n'est pas en son pouvoir d'agir autrement. Et nous n'avions qu'une envie, être à la hauteur. Celui qui aurait levé la main aurait été vu comme un traître. En réalité, mes camarades et moi étions tétanisés. À 21 ans, j'ai l'honneur d'accepter de mourir pour l'Empire du Grand Japon. Je dissimule le vertige qui me saisit. Nous sommes le 27 avril 1945, c'est un beau jour de printemps. Avant nous, d'autres soldats sont partis après avoir été désignés pour des attaques spéciales. Ces dernières semaines, nous avons été préparés pour effectuer au mieux notre tâche. Décollage, vol, piqué. L'attente était pire que tout. Parfois, lors des entraînements, je me voyais en train de pulvériser mon zéro contre un porte-avions. Vivant dans la tension d'avoir été choisi, angoissé de devoir attendre la date du grand jour. La connaître m'a soulagé. Il y a 2 jours, mon capitaine est venu me trouver. « Soldat Kaneda, êtes-vous prêt pour cette mission ?» J'ai répondu comme une balle. « Oui, et je souhaite partir le plus tôt possible. Vous partez après-demain. » Quand le capitaine a tourné les talons, j'étais pétrifié mais étrangement calme. Savoir la date de mon départ a agi comme un baume. Ma mort n'est pas si importante. J'étais décidé à partir, mais les rumeurs qui se sont multipliées ces derniers temps me sont revenues en tête et je me suis mis à douter. Mon suicide était-il nécessaire pour sauver le pays ? Si c'est le cas, je n'ai plus qu'à me concentrer sur cette attaque spéciale. Pourtant, une citation me revient en mémoire et me hante, sans que je me souvienne à cet instant de quelle bouche elle est sortie. Il n'y a rien d'honorable à mourir pour une cause perdue.
Et ça y est, Stéphanie Hochet, on est presque à la fin du premier chapitre, là, et déjà, le doute est là, dans la tête de votre narrateur, et avec lui sont posés, encore une fois, dès le départ, tous les éléments qui expliquent sa psychologie à ce moment crucial de son existence, le moment du choix. Et cette interrogation-là, qui sous-tend une très grande partie du livre, elle est subversive en elle-même. Il ne devrait pas se poser cette question.
Oui, il ne devrait pas, mais s'il était une tête brûlée, il ne se poserait pas la question. On voit que certains camarades ne se posent pas du tout la question. Certains kamikazes sont presque exaltés à l'idée de réussir leur mission et pour eux ce sera presque, on va dire, la réussite totale de leur vie. On a trouvé des cas comme ça de jeunes pilotes, on va dire, illuminés par cette perspective du suicide, du sacrifice suprême. Mais lui, Isao, est quelqu'un de plus ambigu. Déjà, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation assez raffinée. Il a pas de sentiment de rejet vis-à-vis de la culture occidentale. C'est un petit patriote, mais il est quand même assez informé pour savoir que là, à ce moment de la guerre, on est en pleine bataille d'Okinawa. Il fait pas partie des premiers volontaires, avec des gros guillemets, qui ont été envoyés. Il sait que la plupart des attaques suicides ont raté, tout simplement. Donc le dilemme est là en lui.
Oui, sa mort en vaut-il la peine ? C'est la question qu'il se pose. Mais il faut être très clair, Stéphanie Hochet, ce qui lui fait peur, ce n'est pas la mort en tant que telle.
Mm-hmm. Exactement. Il serait prêt à donner sa vie. Si ça avait un impact pour la victoire du Japon, si ça pouvait sauver des civils, si ça pouvait sauver l'empereur, il le ferait. Et il est tout à fait prêt à donner sa vie. Il est de toute façon, il s'est engagé dans l'armée impériale. Il l'a désiré. Mais la question qui se pose, c'est que pourquoi arriver à un tel geste si la guerre est déjà perdue? Puisqu'il est plus que probable. probable que le Japon a déjà perdu la guerre et que cette décision des généraux signe en fait la défaite. C'est-à-dire que quand on envoie ces jeunes pilotes assez doués se faire tuer, c'est qu'on... En fait, on se débarrasse des meilleurs éléments.
Mais alors, ça pose la question de l'héroïsme aussi, Stéphanie Hochet. Et là, la romancière que vous êtes a peut-être sa propre définition de l'héroïsme. C'est quoi un héros et c'est quoi un héros en temps de guerre?
Un héros, c'est quelqu'un, selon moi, qui va s'oublier pour une cause qu'il perçoit comme supérieure. C'est quelqu'un qui a un combat qu'il veut mener jusqu'au bout. Et qui est capable de s'oublier pour ça. C'est quelqu'un qui ira au bout de ses idées. Et en même temps, moi j'aime que les héros soient des êtres aussi sensibles, qui se mettent à douter, qui sont envahis par le doute et le dilemme, qui remettent les choses en question, qui remettent l'autorité en question. Donc c'est comme ça que j'aime les héros en fait. Hein. C'est en ça qu'il est un personnage romanesque, c'est que il est complexe.
Alors c'est important de revenir justement sur sa formation, hein, Stéphanie Hochet. Isao, il a été formé au pilotage au Yokaren, hein, une école à la discipline de fer. Il a donc été conditionné pour le sacrifice volontaire de sa vie, conditionné pour le combat, formé aux techniques d'attaque. Une formation militaire qui s'inscrit pleinement dans ce qu'on appelle le Bushido au Japon. Le Bushido, c'est le code moral des guerriers japonais. Est-ce qu'on peut dire que l'esprit kamikaze, c'est le cousin de l'esprit samouraï?
En tout cas, c'est un peu l'héritier. C'est-à-dire que en 1945, la chevalerie a été, supprimée légalement. C'est-à-dire que ça n'existe plus. On ne reconnaît plus les samouraïs depuis l'époque Meiji. On peut plus parler de samouraï, mais le terme reste un petit peu utilisé. On parle pour les kamikazes des samouraïs des airs. Lui, il vient d'une famille de samouraïs, en tout cas du côté de sa mère. Il a été élevé par une grand-mère qui avait beaucoup de foi dans le bushido, dans le hagakure, qui lui a appris certains principes et il y est très très attaché. Donc c'est quelque chose qui est encore dans les têtes, c'est encore dans les esprits. Et puis l'armée est complètement une armée quasi archaïque, hein. C'est une armée presque féodale, un petit peu dans sa mentalité. L'armée japonaise exige de ses soldats qui se suicident plutôt que d'être prisonniers des Américains. Donc on est quand même dans des références qui sont des références très anciennes du Japon ancien. Oui, mieux vaut se donner la mort que de devenir que d'être prisonnier. Le sacrifice est beau. Le sacrifice est une valeur martiale suprême. Dans le Bushido, on dit que quand un guerrier se retrouve face au choix entre la vie et la mort, il doit choisir la mort. Voilà, qu'il est bien plus honorable de mourir pour son maître que de tuer un ennemi, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est vraiment mais tellement éloigné que c'est même à l'opposé même de notre univers mental complètement.
Et il se trouve qu'Isao a été élevé par sa grand-mère, Yumiko, qui est pétrie justement de ce patriotisme et de cette tradition. La tradition, c'est aussi le théâtre no, hein, à laquelle Isao a aussi été initié. Stéphanie Hochet, comment est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots, pour nos auditeurs, la beauté et la force du théâtre no? C'est pas évident, hein, pour un occidental.
Ah, c'est très très compliqué parce que ce sont des histoires de l'époque féodale. Il est question souvent de sorcières, du monde, des esprits qui reviennent sur terre. C'est un chant qui est assez étrange, déroutant pour un occidental. Mais on est dans une espèce de mythologie ancienne, mythologie assez archaïque du Japon. Mais voilà, il est question aussi de chevalerie, de combat, etc. Donc on pourrait le rapprocher éventuellement de peut-être de la Renaissance anglaise avec les voilà les combattants moi je vois bien voilà Hamlet se vengeant se vengeant de son beau-père ça pourrait être un scénario du théâtre nouveau par exemple.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Stéphanie Hochet pour son roman Pacifique aux éditions Rivage. Alors on a parlé de la formation traditionnelle de votre héros, Isao Kaneda, formation dispensée par le Yokaren, son école de pilotage, mais aussi par sa grand-mère Yumiko. Et pourtant, Stéphanie Hochet, c'est un peu cette grand-mère qui va, si j'ose dire, introduire le ver dans le fruit en faisant appel pour son petit-fils à un précepteur, Monsieur Misu. Et c'est grâce à lui qu'Isao va s'ouvrir à la culture classique, et la culture classique occidentale, ça commence assez subrepticement.
Oui, alors donc il a la chance d'avoir un précepteur qui va lui apprendre beaucoup de choses, qui va lui ouvrir tout un univers, l'univers de la littérature occidentale, par le latin, le grec, il va lui faire découvrir Ovide, etc. Ça c'est une éducation qu'on peut trouver à l'époque chez des jeunes gens qui sont des rejetons de la bourgeoisie et qui reçoivent des éducations assez ouvertes sur le monde. Donc depuis l'époque Meiji, le Japon s'est ouvert sur la culture occidentale, même s'il reste extrêmement nationaliste et qu'on est quand même on est quand même dans une époque extrêmement nationaliste. C'est un mélange de tout ça et Isao reçoit cette culture qui est une culture donc la littérature même les œuvres de Shakespeare il les aura étudiées avec son précepteur le latin etc plus évidemment les lettres japonaises et la poésie japonaise. Donc c'est vraiment ce mélange qui fait que c'est un être assez complet et qui abrite en lui pas des choses contradictoires mais une certaine richesse.
Oui, Shakespeare effectivement que vous évoquez Stéphanie Hochet, notamment Roméo et Juliette, c'est aussi par ce biais là qu'il va un petit peu s'éveiller à l'amour, légèrement.
Oui, alors il va pas aller au lycée tout de suite. Donc il est retenu un peu par sa grand-mère qui veut en faire un petit peu sa chose, il a un précepteur donc il quitte rarement la maison et il va faire la rencontre d'une jeune fille plutôt tout simplement alors qu'il se déplace pour un cours de kendo. Mais il lui adressera jamais la parole mais soudain en fait cette vision, en fait, cette beauté juvénile va éveiller en lui quelques vers qu'il aura lus avec son précepteur. Il va s'interroger sur le sentiment amoureux, tout en pensant que ça ne lui arrivera jamais. Et donc, c'est une première émotion comme ça. Et bon, il est très jeune, alors les émotions sont très très fortes.
Et donc Isao va découvrir Shakespeare, va découvrir la littérature classique occidentale, dirons-nous. Il va découvrir un autre monde, d'une certaine façon, Stéphanie Hochet. Et loin de les opposer, finalement, ce monde occidental et ce monde traditionnel japonais, il va plutôt les rapprocher. Il va, au contraire, construire une forme de passerelle. Je crois d'ailleurs que vous utilisez le mot, de passerelle entre les deux cultures. Qu'est-ce qui, pour vous, Stéphanie Hochet, rapproche les auteurs grecs et latins de la philosophie japonaise ou le théâtre no de celui de Shakespeare?
Alors, pour me rendre compte qu'il y avait passerelle, j'ai lu un auteur japonais du fin du 19e siècle, début du 20e, qui s'appelle Nitobe, qui a écrit un texte qui s'appelle Le Bushido. Et c'est un texte qu'il a écrit en anglais à l'époque, dans un anglais victorien, donc un anglais assez beau, etc. C'était un texte qui était destiné en fait à l'Occident pour expliquer le Japon, un peu pour le vendre, le Japon. Et Nitobe, donc cet écrivain assez fameux, montre qu'en fait, au lieu de s'opposer systématiquement, les deux cultures ont des points communs, ce qu'on appelle aussi des passerelles. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, les œuvres de Shakespeare reprennent, en fait, ont des références assez proches de la culture classique japonaise. On parlait tout à l'heure du théâtre. Voilà, dans le théâtre japonais, il y a beaucoup de choses qui rappellent le théâtre de Shakespeare, par exemple. L'existence, on parlait des sorcières, la vengeance filiale, si son maître ou son père a été tué par un ennemi, etc. Tout ça, ce sont des références qu'on retrouve aisément, en fait, entre les deux cultures. Et c'est assez émouvant, d'ailleurs. Kurosawa se privera pas de se passionner pour l'œuvre de Shakespeare et d'en faire une version totalement japonaise et en même temps, voilà, totalement shakespearienne.
Alors, il y a un autre grand auteur japonais qu'on n'a pas encore cité depuis le début de cette émission, mais qui lui aussi s'est retrouvé un peu pris dans cette dualité, peut-être d'une façon un petit peu différente, c'est Yukio Mishima. Est-ce que cette grande figure de la littérature japonaise a nourri peu ou prou le personnage d'Isao?
Absolument. Alors, surtout dans son enfance. C'est-à-dire que Yukio Mishima a été élevé par sa grand-mère, une grand-mère descendante des samouraïs qui lui a inculqué une éducation extrêmement stricte, extrêmement exigeante, qui a voulu faire de lui un descendant de samouraïs. On voit bien que les choix que fera Mishima dans sa vie seront liés à tout ça, seront liés à un Japon ancestral qui est un Japon fantasmé. Et les références culturelles qu'il reçoit, c'est exactement d'éducation de Mishima. Donc ce sont deux personnages contemporains. Mon personnage et Mishima ont presque la même date de naissance, à un an près. C'est un auteur que j'ai énormément lu et aimé, et je trouve qu'il parle très bien d'une certaine esthétique, surtout l'esthétique de la mort, qui revient beaucoup dans la culture classique japonaise. Et en même temps, Mishima est parfait pour faire le lien justement entre la culture occidentale et la culture orientale, parce que c'est vraiment l'écrivain qui a le plus lu d'auteurs occidentaux qui parvient à s'enrichir de la culture occidentale et faire de ses livres quelque chose de vraiment japonais aussi. Donc, à la fois la biographie et les œuvres de Mishima m'ont aidé. C'est absolument certain. Et Mishima, de toute façon, est quelqu'un qui me fascine. Parce que je le trouve tellement étrange. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui aurait pu faire la guerre, mais qui ne l'a pas faite. Et qui devient, comme tout le monde sait, une sorte de fasciste au bout de quelques temps.
Jusqu'à son suicide par seppuku, oui, en 1970. Le seppuku, oui, c'est le harakiri des guerriers, pour faire simple. Et là, on retourne précisément aussi à cette question de la mort et à cette question des kamikazes. Au fond, c'est l'interrogation principale de votre livre.
C'est la référence c'est une des références dans la chevalerie japonaise, et c'est une référence tout à fait valorisée. Hein. Ça a énormément marqué les Occidentaux quand ils ont découvert les rites des Japonais, mais effectivement, alors c'était pas forcément le rite qu'on voyait le plus souvent, mais c'était quelque chose qui arrivait. Et c'était tout à fait applaudi et bien perçu. Mais c'est quand même assez différent du suicide européen, parce que là ce sont des suicides pour l'honneur ou pour une cause, en fait pour une cause supérieure. Par exemple, même quand Mishima se fait seppuku, c'est pour réclamer, enfin c'est pour une réclamation politique, c'est pour que l'empereur redevienne un personnage divin, pour que le Japon redevienne une puissance hiérarchisée comme avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le suicide a quelque chose de... On va dire que c'est presque un acte politique.
起天赐的香，难以大地此地此我流球西的诺塔地西的诺塔地地上離れりゃ天子山この世の別れ思い出します母の顔母の顔
VMDN avec Stéphanie Hochet pour son roman Pacifique, paru aux éditions Rivage. On notera au passage la polysémie du titre, hein, qui en un seul mot ouvre plusieurs voies là aussi bien différentes. On parlait de passerelle tout à l'heure, Stéphanie Hochet, entre culture japonaise et culture occidentale. Mais cette passerelle, c'est aussi celle que le lecteur emprunte en lisant votre livre, le lecteur occidental s'entend. Et c'est aussi celle que vous avez empruntée vous-même pour l'écrire, j'imagine. Comment est-ce que vous avez fait pour l'emprunter? Parce que c'est facile quand même pour une occidentale, pour une européenne, pour une française comme vous, de vous mettre dans la tête d'un jeune japonais, en plus d'un jeune japonais de 1945.
Mais peut-être que le jeune japonais de 1945 me parle plus que le jeune japonais d'aujourd'hui.
Ah oui.
Alors oui, c'est très 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 dur, c'est sans doute le livre le plus difficile à écrire pour moi. En fait, je trouvais je trouvais ça très très ambitieux, mais j'avais quelques documents qui me permettaient d'avancer avec des balises un petit peu. Et par exemple, évidemment, la documentation, etc., ou même les biographies ou les témoignages de jeunes gens ont été extrêmement importants. Et ces jeunes gens qui écrivaient à leur mère, généralement juste un jour avant de partir en mission spéciale, hein, ce qu'on appelait des missions spéciales, c'est la mission suicide. On a quand même beaucoup beaucoup de témoignages, on a beaucoup de reportages, il y a des images qui me marquent. Les images, on les voit mettre ce bandeau autour de leur front, le hachimaki, et de prendre leur dernier verre de saké et de se préparer. Je trouvais ça tellement bouleversant. Alors j'ai cherché derrière qui étaient ces jeunes gens. Je me suis intéressée à l'un d'eux en particulier parce qu'il y a eu une petite émission de radio d'ailleurs sur l'un d'eux qui racontait son parcours. Donc je me suis vraiment inspirée des parcours existants. Pour la guerre, j'ai vraiment pas voulu faire une seule faute, ce qui était un peu compliqué parce qu'il faut être à la fois juste et en même temps il faut que ça devienne du roman, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit incarné, que ce soit qu'on sente que le personnage se déplace avec facilité dans cette période-là. Et ce qui fait que, en fait, c'est plusieurs couches d'écriture. C'est la difficulté de ce genre de livre, c'est que on n'y arrive pas du premier coup. Donc plusieurs couches d'écriture. Au début, ça paraît un peu raide, et puis il faut reprendre, il faut humaniser, il faut... Voilà, donc c'est... c'est pas facile du tout. Mais de toute façon, mon objectif, c'était de parler d'un point précis de la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai pris ce point tout à fait précis pour qui me parlait, parce que la question du sacrifice des jeunes me trouble énormément, m'interroge. Vous parliez d'un roman anglais en présentation. Un roman anglais cité en 1917 en Angleterre. On envoyait des jeunes gens dans les Flandres pour se battre, et parfois on les massacrait pour gagner 10 mètres de terrain. Enfin, il y a quelque chose de profondément humain et de dérangeant dans ces histoires-là. Donc c'est à nous, écrivains, de raconter aussi avec cette distance qui est la nôtre de l'époque contemporaine, ce qu'il y a d'humain et ce qu'il y a de déchirant et ce qu'il y a de fort. C'est voilà, il faut aussi que ça crée chez moi quelque chose, une sorte d'envie et de questionnement.
Mais alors, un roman anglais, Stéphanie Hochet, c'était il y a 5 ans maintenant. Est-ce que vous diriez que Pacifique, c'est votre roman japonais?
On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Mais après, j'ai pas préféré utiliser la facilité de l'appeler un roman japonais. En plus, j'aurais trouvé ça triste par rapport au titre Pacifique qui me plaît pour la polysémie, comme vous l'avez souligné, qui convenait vraiment mieux. Mais parce que sinon, l'appeler un roman anglais aurait été presque une sorte de gag, mais effectivement, c'est peut-être le roman où j'explore, on va dire, un petit territoire dans l'histoire du Japon, où j'essaie de m'en approcher, et de m'en approcher avec ce que je trouve à la fois terrible et terriblement beau, parce que moi, ce qui m'a happé dans cette histoire, c'est les termes qui étaient utilisés, c'est-à-dire que c'est cette violence, mais cette violence qui est masquée de mots magnifiques.
Oui, c'est ça qui est très surprenant pour le lecteur occidental, sauf évidemment celui qui connaît déjà un petit peu la culture japonaise. C'est cet entre-deux, finalement, ce compagnonnage, ce pas de deux, presque, d'une certaine façon, entre la violence la plus brute, l'intransigeance totale, et la poésie la plus délicate. Et de ce point de vue-là, votre roman est aussi un roman japonais.
C'était vraiment le point que je voulais développer, parce que pour moi c'est le point le plus stupéfiant, en fait. C'est-à-dire que on a accolé des mots magnifiques, et par exemple ces jeunes gens sont des fleurs de cerisier. Ils étaient appelés comme ça, des fleurs de cerisier, c'est-à-dire que cette fleur qui fleurit au printemps et qui tombe alors qu'elle est au paroxysme de la beauté, c'est une image du kamikaze. Le chrysanthème flottant, c'est quand même une image hallucinante pour parler d'un avion avec un pilote qui va s'écraser sur la flotte ennemie et créer du remous dans la mer, dans l'océan, qui fait cette espèce de cercle blanc. Qui rappelle un petit peu le chrysanthème qui serait sur de l'eau, sur une mare, etc. Enfin, c'est vraiment des images d'une telle délicatesse, d'une telle beauté, et raccordées en fait à ce qu'il y a de plus violent, la trouvaille insensée. Et c'est toujours sidérante quand on y pense.
C'est vrai qu'il y a un côté vraiment vertigineux, hein, qui se traduit aussi d'ailleurs à l'approche du jour J, au fur et à mesure que l'on tourne les pages, à l'approche du jour J et de leur H, par une souffrance, la torture psychologique, dit Sao, mais qui devient aussi physique.
Oui, bien sûr, c'est la torture de ceux qui parviennent presque plus à dormir, de ceux qui font des cauchemars. Il raconte qu'il entend ses camarades pleurer la nuit, faire des cauchemars. Lui-même, il se réveille, il a les intestins noués. Enfin bref, on connaît ça. On parle aussi des soldats de la guerre de 14 qui étaient atteints de diarrhée, etc., avant de passer à l'attaque. Enfin, on voit que c'est des souffrances même physiques.
Alors, quel sera le choix final du personnage? Ira-t-il ou non jusqu'au sacrifice de sa vie? Évidemment, on ne va pas le dire dans cette émission. Je renvoie les auditeurs au livre. C'est un des grands suspens du livre. Mais on se dit finalement, Stéphanie Hochet, que ce n'est pas forcément l'essentiel. Est-ce que l'essentiel, ce ne serait pas plutôt de se poser des questions, de se dire « j'ai le choix ».
Alors à la fois il l'a pas, et il finit par faire quand même un choix de vie. Donc sachant que dans l'armée impériale, le choix n'existe pas. L'armée est une espèce de monstre terriblement dur, l'armée particulièrement de cette époque. Mais le Japon va lui apporter quelque chose d'extraordinaire. Même il s'y attend pas, évidemment, quoi. Mais voilà, il y aura un choix de vie à un moment, il va adhérer à un autre choix de vie.
Est-ce que c'est un livre sur le doute, sur la culture comme clé de la liberté à travers le doute comme forme d'intelligence, Stéphanie Hochet?
Pour moi, le doute est absolument essentiel en tout. Un écrivain qui ne doute pas n'est pas un écrivain intéressant. Un être humain qui ne doute pas est un être humain assez désagréable en général. Le doute est fondamental. Alors, la difficulté, c'est de ne pas être totalement envahi par le doute. Dans ce cas-là, on a du mal à vivre et puis on se rend malade. Mais il faut toujours du doute. C'est ce qui fait la beauté, la beauté de l'être humain, l'humanité même. Prenez le monologue d'Hamlet. Le monologue d'Hamlet n'est que du doute.
Alors ce livre, Stéphanie Hochet, on l'a découvert pendant cette période très particulière qu'est la crise sanitaire autour du Covid-19, la période de confinement qui en France s'est terminée à minuit. Et on a lu en particulier cette phrase-ci, « Ce n'est pas la mort qui nous fait peur, mais de ne pas être à la hauteur de notre future mission ». Alors cette phrase, évidemment, fait référence au personnage d'Isao, mais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, elle prend un tout autre relief, vous trouvez pas ?
Peut-être. Peut-être que ce livre avait en lui une sorte de confinement. j'avais été interrogée récemment sur les livres confinés, puisque le mien est sorti juste avant le confinement. Et je répondais à une question de journaliste et je disais... Pour nous, ce qui est le plus important, c'est pas de discuter d'avaloir, d'argent, etc. Bien sûr, on en a besoin, mais pour nous, l'essentiel, c'est d'être lu. Et voilà, donc l'essentiel, c'est pas forcément ce qu'on imagine.
C'est-à-dire que cette fin de confinement, c'est aussi l'espérance pour vous d'une nouvelle vie pour Pacifique ?
En tout cas, je me sens très combative. Vous savez, à l'image de mon personnage, oui. Les personnages nous habitent forcément très longtemps, même après l'écriture. Et je me sens absolument combative, c'est-à-dire que j'ai vraiment terriblement envie de faire partager ce livre, de faire venir les lecteurs vers ce livre, parce que ce sont des belles personnes dans ce livre. Et que dire d'autre ? On a besoin des lecteurs, on a besoin des libraires, on a besoin des lecteurs. Des écrivains privés de lecteurs et de libraires, ce sont des écrivains qui sont dans un état moribond.
Et le confinement, Stéphanie Hochet, c'était une période propice pour lire et pour écrire ?
En fait, pour moi-même, le confinement n'a pas été une torture, parce que en tant qu'écrivain, comme beaucoup d'écrivains, en fait, on est un peu habitué au confinement, c'est-à-dire que être chez soi, lire et écrire, c'est quelque chose qu'on fait la plupart du temps dans l'année. Il y a eu une époque où je vivais presque comme ça. Il y a 10-15 ans, je sortais juste pour une promenade l'après-midi. Donc c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement troublée. Après, c'est d'entendre ce qui se passe, c'est d'imaginer le nombre de morts, c'est de... c'est difficile. Mais voilà, il y a ma vie personnelle et puis après il y a la vie du livre qui est une vie indépendante. Et là, on s'inquiète énormément pour nos livres. On est plusieurs. Donc, tous les auteurs du printemps là se sentent pas bien, quoi. Se sentent mal. Donc c'est deux choses différentes.
Eh bien, il faut lire. Hein, il faut lire Pacifique de Stéphanie Hochet, paru, je rappelle, aux éditions Rivage. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-François Cadet.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
C'est une exposition qui fait partie des grandes victimes du coronavirus. Elle s'appelle tout simplement Steve McQueen, du nom de l'artiste et cinéaste britannique. Elle devait se tenir aux Têtes Modernes à Londres jusqu'à aujourd'hui. Sera-t-elle ou non prolongée ? Pourra-t-on la visiter lorsque les mesures sanitaires seront levées ? Ou sera-t-elle sacrifiée ? On le saura bientôt. Le musée la présente en tout cas comme la première exposition majeure des œuvres de Steve McQueen depuis 1999. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, a pu la visiter pour nous avant que le coronavirus ne s'abatte sur la capitale britannique.
Steve Steve McQueen a présenté lui-même cette exposition comme un homecoming, un retour au bercail, explique le commissaire Fintan Moran. L'artiste britannique a finalement peu exposé dans sa ville natale depuis 1999. Alors le but est d'en faire une suite non officielle, explique-t-il. 14 travaux exécutés ces 20 dernières années sont proposés. Fintan Moran d'ailleurs ne parle pas d'exposition, mais de show, de spectacle.
La plupart des gens connaissent Steve McQueen comme un réalisateur. Donc ce show est l'occasion de montrer la manière dont il envisage la création visuelle. Steve voulait que les visiteurs puissent se déplacer dans l'espace, dans la direction qu'ils veulent. Il voulait que les gens soient obligés de se croiser, un peu comme sur un bateau.
L'artiste a étroitement collaboré avec la Tate pour cette exposition. C'est lui aussi qui n'a pas voulu que soient affichées au mur les traditionnelles notices explicatives à côté de chaque œuvre. Il y a bien des panneaux lumineux, mais qui ne donnent que le titre et l'année de création. 11 des œuvres sont des films, alors l'ambiance est sombre, il fait presque noir. S'ils veulent plus de détails, les visiteurs sont donc obligés d'utiliser la lumière de leur téléphone pour arriver à bien lire le petit dépliant qui leur est distribué à l'entrée. Et le premier film sur lequel on tombe ne crie pas exactement Homecoming, retour au bercail, puisqu'il s'agit de Static, des images de la Statue de la Liberté tournées depuis un hélicoptère.
Steve voulait être comme une mouche qui embêtait la statue. On entend le bruit de l'hélicoptère, on voit de près les excréments de pigeons et les selles de la statue. Il réfléchissait sur comment la liberté peut être contenue dans un monument. Et c'est une bonne entrée pour l'exposition, car ce monument est une image prétexte, qu'on voit souvent au début des films. Mais comme à son habitude, il nous force à le regarder encore et encore.
Steve McQueen aime aussi montrer les gens qu'on ne voit pas, ou dont le quotidien ne passionne pas. C'est ce qu'il a voulu faire avec Ashes, un double film éponyme dont la première partie date de 2002 et l'autre de 2015. On entre cette fois dans une salle un peu isolée. Sur un côté de l'écran, on voit un jeune homme, Ashes, sur la proue d'un bateau au large de Grenade, d'où est originaire Steve McQueen. L'immensité de l'eau donne une impression de paix et de confiance en l'avenir à l'horizon. De l'autre côté, la caméra suit de près le travail de poseurs de tombes qui construisent un monument funéraire pour Ashes. Il a été tué par des dealers de drogue 3 mois après que Steve McQueen l'ait filmé. Mais puisque la Tate veut rappeler que Steve McQueen n'est pas qu'un cinéaste, il y a aussi 2 autres œuvres, notamment. La première se concentre sur une photo fixe. Elle montre le crâne de son cousin, Marcus. L'œuvre s'appelle 7 novembre, la date à laquelle Marcus a tué son frère par accident avec un pistolet qu'il ne pensait pas charger. On entend la voix de Marcus raconter l'incident avec calme, sans être distrait par la recherche de regrets ou bien de sentiments sur le visage du raconteur, comme on le ferait s'il était filmé. L'autre œuvre est une sculpture, comme l'explique le directeur de l'exposition, Hakim Borchatioum.
C'est un vieux lit d'hôpital recouvert d'une moustiquaire en fil d'or. Il y a une vraie dissonance entre les deux éléments.
Steve McQueen explore la limite entre protection et confinement dans cette œuvre qui a d'abord été exposée en 2016 à la prison de Reading pour les 50 ans de la légalisation de l'homosexualité. C'est dans cet établissement pénitentiaire qu'était incarcéré le romancier Oscar Wilde au 19e siècle. Il reste encore plusieurs œuvres à observer et tous les critiques n'ont pas été convaincus par cette exposition jugée trop éparse et surtout presque impossible à voir en un seul coup, puisque ce sont en tout 5 heures de films qui sont diffusés.
Reportage de Marie Billon à Londres. Dans un instant, le journal sur RFI. À demain, prenez soin de vous et vous m'en direz de bonnes nouvelles.